La difficile émergence de clivages classistes en Inde. Il reste toutefois à préciser un point essentiel. Les clivages électoraux observés en Inde peuvent-ils vraiment être décrits comme des clivages classistes, ou bien ne faudrait-il pas plutôt les qualifier de castéistes, c'est-à-dire liés davantage à l'identité de caste et à l'identité religieuse qu'à des dimensions socio-économiques? Il n'est pas simple de répondre précisément à cette question. D'une part parce que ces différentes dimensions sont fortement corrélées les unes aux autres, et d'autre part car les données dont nous disposons dans les enquêtes post-électorales pour les distinguer les unes des autres sont hautement imparfaites. En ce qui concerne la corrélation entre les différentes dimensions, rappelons tout d'abord que les hautes castes se caractérisent en moyenne par des niveaux de diplômes, de revenus et de patrimoine sensiblement plus élevés que le reste de la population. En particulier, les Indiens se déclarant comme brahmanes, qui, dans les recensements britanniques de l'époque coloniale, étaient déjà les plus diplômés et les plus grands propriétaires, continuent de se situer au sommet des différentes hiérarchies à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Les autres castes élevées ont en moyenne des diplômes sensiblement moins valorisants, mais sont presque aussi avantagés en termes de revenus et de patrimoine. À l'inverse, les musulmans continuent de se situer en moyenne à des positions relativement basses sur les différentes dimensions, à peine plus élevées que celles occupées par les SCST, alors que les OBC se situent en position intermédiaire entre ces groupes et les hautes castes. Autrement dit, la hiérarchie des castes utilisée pour représenter les clivages électoraux sur les graphiques de ce chapitre correspond approximativement à la hiérarchie socio-économique des classes de diplômes, de revenus et de patrimoine. À la différence importante près, que les électeurs musulmans votent davantage à gauche que les SCST, alors qu'ils se situent légèrement au-dessus d'eux en termes de hiérarchie socio-économique. Cependant, si les deux hiérarchies coïncident en moyenne, elles sont loin d'être parfaitement superposées au niveau individuel. Autrement dit, il existe de nombreux électeurs de haute caste, y compris des brahmanes, qui ont des niveaux de diplôme, de revenus et de patrimoine plus faibles que nombre d'électeurs OBC, musulmans ou issus des rangs SCST. Il faut en outre prendre en compte le fait que ces corrélations entre les différentes dimensions des inégalités sociales sont très différentes suivant les États. Par exemple, les hautes castes représentent généralement des effectifs beaucoup plus élevés dans le nord de l'Inde que dans le sud de l'Inde, et que la politisation de la caste et de la classe prend également des formes très différentes suivant les régions du pays. Afin de clarifier les choses, la façon la plus naturelle de procéder consiste à introduire des variables de contrôle, c'est-à-dire à raisonner toutes choses égales par ailleurs. Malheureusement, les enquêtes post-électorales indiennes ne contiennent pas de variables permettant de mesurer correctement le revenu et le patrimoine, ou tout du moins pas sur une base comparable dans le temps. Si l'on introduit des contrôles pour l'État, l'âge, le sexe, le diplôme et la taille d'unité urbaine, on obtient les résultats suivants. Tout d'abord, si l'on examine le vote BJP parmi les hautes castes, relativement au reste des électeurs, on constate que la prise en compte des variables de contrôle réduit quelque peu l'ampleur de l'effet haute caste. La différence de vote BJP entre haute caste et le reste de la population passe, par exemple, en 1999, de 25 points avant contrôle à 20 points après contrôle. Cet effet reste néanmoins très fort, étant même à s'accroître au cours du temps. Voir graphique 16.11. On obtient un résultat comparable si l'on examine le vote BJP parmi les plus basses castes, SCST, relativement au reste des électeurs. Voir graphique 16.12. Enfin, et de façon particulièrement nette, on constate que le clivage religieux entretenu par le BJP entre électeurs hindous, toutes castes confondues, et musulmans, est à peine atténué par la prise en compte des variables de contrôle, et surtout qu'il s'est fortement accru au cours du temps, passant de 24 points de différence en 1999 à 32 points en 2014. Voir graphique 16.13. Il est difficile de dire comment ces résultats seraient affectés si nous disposions de meilleures variables de contrôle socio-économiques, particulièrement s'agissant du revenu et du patrimoine. Il paraît clair que l'effet du clivage religieux resterait en place, ce qui ne serait pas très étonnant, vu le très fort antagonisme anti-musulman entretenu par le BJP. Compte tenu du faible impact des variables de contrôle, en dehors de l'État, il paraît probable que l'effet de la caste resterait également très marqué. Que la caste puisse avoir un effet sur le vote indépendamment des caractéristiques socio-économiques n'a d'ailleurs rien d'étonnant étant donné le rôle central joué dans les débats indiens par les politiques de quotas basées directement sur la caste. Si la redistribution en Inde était principalement basée sur le revenu ou le patrimoine, par exemple au moyen d'impôts et de transferts monétaires dépendant de ces caractéristiques, ou bien de dispositifs d'admission préférentielle dans les universités ou les emplois publics dépendant du revenu parental ou du patrimoine familial et non de la caste en tant que telle, alors il serait plus surprenant que la caste continue de déterminer à titre principal les clivages politiques. Mais à partir du moment où ces politiques de redistribution sociale basées sur le revenu et le patrimoine ont pour l'instant pris une ampleur limitée en Inde et que les quotas jouent un rôle central dans la structuration du conflit politique, cette politisation passant par la caste, au moins autant que par la classe, ne saurait surprendre. De la perception d'une communauté de destin au sein des classes populaires. Ces résultats sont particulièrement riches en enseignements du point de vue des expériences occidentales, car ils confirment à quel point les clivages électoraux sont construits historiquement et politiquement en fonction des stratégies de mobilisation utilisées, et notamment en fonction des outils de redistribution sociale que l'on se donne. Ils ne sont pas fixés de toute éternité, et ils sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction de constructions politico-idéologiques complexes et changeantes. On notera également que, contrairement à ce que l'on observe dans les démocraties électorales européennes et états-uniennes au cours des dernières décennies, où les classes populaires blanches ont tendance à ne pas voter pour les mêmes partis que les minorités musulmanes ou noires, dans le cas indien, les basses castes hindoues et la minorité musulmane votent pour les mêmes partis, à savoir le Congrès et les partis de gauche. Là encore, il s'agit d'un enseignement précieux, qui montre à quel point le racisme ou l'islamophobie ne sont pas plus naturels parmi les classes populaires que parmi les élites. Ces attitudes sont construites historiquement et socialement en fonction des outils de solidarité commune que l'on se donne, ou que l'on ne se donne pas, et des stratégies de mobilisation déployées par les uns et les autres. En l'occurrence, si les basses castes hindoues et les musulmans votent pour les mêmes partis, ce n'est pas seulement parce que ces deux groupes se sont sentis pris pour cible par les castes élevées et les nationalistes hindous du BJP. C'est aussi parce que le système de quotas a créé une solidarité de fait entre les basses castes et les musulmans. Il faut en particulier insister sur les effets structurants des nouveaux quotas en faveur des OBC mis en place à partir de 1990. Rappelons en effet que seuls les anciens intouchables et tribus aborigènes, SCST, étaient initialement concernés par le système initial de réservation mis en place dans l'après-guerre. La Constitution de 1950 prévoyait certes son extension aux autres groupes sociaux défavorisés, « other backward classes », mais la question était tellement explosive qu'il fallut attendre 1990 pour que des quotas en faveur des OBC soient effectivement mis en place, à la suite des travaux et propositions de la commission Mandal en 1978-1980. Or, le point central est que, contrairement aux quotas en faveur des SCST, dont les musulmans étaient exclus, le système de réservation en faveur des OBC, implémenté à partir de 1990, concernait aussi bien les classes hindoues et musulmanes désavantagées. Un système de commission, de procédures et de critères était mis en place pour juger des conditions de vie et de dénuement matériel des différents groupes sociaux, en fonction notamment du type d'emploi, du logement occupé et des actifs et terres détenus, indépendamment de la religion. Un critère de revenu identique pour tous les groupes fut également fixé, au-delà duquel il était impossible de bénéficier des quotas. Ces nouveaux quotas firent l'objet d'une opposition farouche de la part des castes élevées, qui craignaient non sans raison que ces réservations ne retirent des places précieuses à leurs enfants. Le BJP était particulièrement hostile à ce système, qui non seulement prenait des places aux enfants de ses électeurs, mais qui de surcroît en offrait une partie à la minorité musulmane Honi. À l'inverse, parmi les catégories modestes, ce système a joué un rôle central dans le développement d'une communauté d'intérêts et de destin entre les classes hindoues et musulmanes désavantagées, unies pour la défense de ce système. C'est dans le contexte de ces débats que furent créés plusieurs partis politiques visant à défendre les droits des basses castes, SCST et OBC hindous et musulmanes, face à la mainmise historique des hautes castes sur les positions élevées dans la société indienne. On pense en particulier au parti de basse caste BSP, Bahujan Samaj Party, dont le nom est généralement traduit comme « parti de la société majoritaire ». Créé en 1984 pour défendre les intérêts des catégories modestes et dénoncer les privilèges des classes élevées, dirigé par sa chef charismatique Kumari Mayawati, première femme issue des anciens intouchables, SC, a dirigé un gouvernement régional en Inde, le BSP fit alliance avec le SP, Samajwadi Party, Parti Socialiste, lors des élections régionales de 1993 pour déloger le BJP du pouvoir dans l'Uttar Pradesh. Ces affrontements électoraux se prolongèrent des années 1990 aux années 2010 et eurent un retentissement considérable dans l'ensemble du pays. Rappelons que l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, est l'État indien le plus peuplé. Quelles que soient les limitations de ce programme politique à base de réservations et le caractère parfois chaotique des coalitions liées à cette floraison de nouveaux partis, le fait est que le développement des partis de basse caste au cours de la période 1990-2020 joua un rôle déterminant dans la politisation de l'inégalité et la mobilisation des classes populaires dans un sens unitaire. D'une certaine façon, de même que les grands travaux et les assurances sociales du New Deal contribuèrent à créer une communauté d'intérêts entre classes populaires blanches et noires aux États-Unis, au moins pour un temps, on peut dire que les réservations en faveur des OBC ont établi une solidarité de destin entre les classes défavorisées hindoues et musulmanes en Inde. Clivage classiste, clivage identitaire, le piège social-nativiste en Inde. Dans quelle mesure les clivages classistes de type socio-économique et les questions de redistribution vont-ils structurer la démocratie électorale indienne dans les décennies à venir? S'il est évidemment impossible de répondre par avance à ces questions, on peut toutefois émettre plusieurs hypothèses et souligner l'existence de forces contradictoires. Il y a tout d'abord un ensemble de facteurs qui poussent pour le renforcement des clivages identitaires. De façon générale, le fait que les systèmes de quotas jouent un rôle aussi central dans les débats indiens est problématique. De telles politiques peuvent certes prendre leur place au sein d'un ensemble plus vaste de politiques sociales et fiscales, mais elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes. En outre, les réservations entraînent parfois des conflits sans fin sur les frontières entre sous-castes et jatis, qui peuvent contribuer à figer les conflits identitaires. On assiste par ailleurs au cours des dernières décennies à une tentative délibérée de la part du BJP de durcir encore davantage le clivage religieux et les sentiments anti-musulmans. Après avoir tenté en vain de s'opposer aux quotas en faveur des OBC pendant les années 1990, le BJP a progressivement changé de stratégie politique au cours des années 2000 et 2010. Conscient du fait qu'il ne pouvait réunir de majorité en s'adressant uniquement aux castes élevées, le BJP s'est lancé dans une entreprise de séduction des classes populaires hindoues. Cette stratégie s'est notamment incarnée dans la nomination de Modi à la tête du parti, premier leader du BJP à être issu des OBC et non pas des hautes castes. Et elle a été couronnée de succès par la victoire électorale du BJP en 2014. De fait, si l'on examine l'évolution de la structure des électorats, il est frappant de constater les progrès réalisés par le BJP et ses alliés lors des législatives de 2014 parmi les SCST et les OBC. De fait, le BJP est parvenu à détacher en partie le vote populaire hindou du vote musulman. Ce phénomène est plus limité dans des États comme l'Uttar Pradesh, où les partis de basse caste sont parvenus à mobiliser l'électorat populaire en un sens unitaire. Mais il se retrouve dans de nombreux États du nord de l'Inde, par exemple le Gujarat, dont est originaire Modi, voire graphique 16.14. La stratégie de séduction du vote populaire hindou mise en œuvre par le BJP sous la direction de Modi s'est appuyée sur plusieurs piliers. Outre l'exaltation de ses origines modestes de petit vendeur de thé du Gujarat, limitrophe du Pakistan, entré comme militant au RSS à l'âge de 8 ans, Modi a toujours pris soin de dénoncer le fait que non seulement le parti du Congrès était aux mains d'une dynastie de privilégiés, mais qu'il était aussi et surtout incapable de défendre l'Inde face aux attaques de l'ennemi intérieur, musulman, et extérieur, pakistanais. Il faut rappeler ici les traces profondes laissées par la partition avec le Pakistan et les échanges de populations hindoues et musulmanes qui ont suivi. Le conflit est d'une certaine façon toujours en cours dans l'état de Jammu et Cachemire, dont le rattachement à l'Inde est contesté par des séparatistes musulmans qui, d'après le gouvernement indien, utilisent le Pakistan comme base arrière pour préparer leurs actes terroristes. Lors des émeutes anti-musulmans attisées par Modi et le BJP au Gujarat en 2002, qui furent les plus violentes observées en Inde depuis 1947, des tracts accusaient les populations musulmanes de se préparer à l'insurrection en cas d'invasion par le Pakistan, perspective particulièrement peu plausible. Il faut aussi souligner le traumatisme durable créé en Inde par les attentats terroristes musulmans impliquant des commandos d'origine pakistanaise et indienne, survenus à Delhi en 2000-2001 et Mumbai en 2008-2009. L'idée selon laquelle les populations musulmanes de l'Inde, soit quelque 180 millions de personnes, pour certaines islamisées depuis les XIe siècle, seraient personnellement responsables de ces attaques, ou prépareraient activement une invasion pakistanaise, n'a certes guère de sens, pas plus que les accusations de connivence avec le djihadisme islamiste régulièrement lancées à l'encontre du Parti du Congrès et des partis de gauche. Mais dans un contexte où chacun est à la recherche d'explications pour des événements objectivement traumatisants, le fait de désigner des complices et des boucs émissaires est malheureusement une attitude fort répandue. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que l'attentat commis par des séparatistes musulmans contre les forces de police indiennes à Pulwama, Jammu et Cachemire, quelques mois avant les élections de 2019, suivi de raids aériens indiens sur des camps situés au Pakistan, occasion rêvée pour que Modi exprime sa force, ait eu un impact déterminant sur la campagne et le déroulé des débats, au bénéfice du BJP. On notera que les enjeux politiques suscités par ce durcissement du clivage religieux ne s'arrêtent pas à la question des violences et des émeutes. Dans plusieurs États dirigés par le BJP, notamment au Gujarat et au Maharashtra, des législations ont été mises en place pour mettre la pression sur les musulmans, et à un degré moindre, sur les chrétiens et les bouddhistes. D'une part, en durcissant les lois à l'encontre des abattages d'animaux, étendues à l'ensemble des bovins et ne concernant plus seulement les vaches, ce qui constitue un motif récurrent de lynchage, et d'autre part, en rigidifiant les procédures relatives aux conversions religieuses, jugées trop souples et soumises aux abus de missionnaires musulmans et chrétiens aux yeux des nationalistes hindous qui accusent les jeunes musulmans de pratiquer le « love jihad » en séduisant de jeunes filles hindoues crédules. Au fond, ce qui est en jeu dans ces débats est très clairement la définition de qui fait ou ne fait pas partie de la communauté nationale. De multiples déclarations des responsables du BJP et du RSS depuis 2014 montrent que l'objectif est de remettre en cause l'existence même du sécularisme, ainsi que du multiconfessionnalisme tel qu'il est garanti par la Constitution de 1950, que le BJP n'a à ce jour pas pu réformer à sa guise, faute de réunir la majorité requise des deux tiers. La réécriture complète des programmes scolaires et universitaires, visant à présenter toute l'histoire de l'Inde sous un angle exclusivement hindou et en opposition avec l'islam, est d'ores et déjà bien engagée. Il s'agit donc en effet d'un débat sur les frontières mêmes de la communauté, et en l'occurrence sur une frontière intérieure que certains voudraient redéfinir entre ceux qui y appartiennent légitimement et ceux qui doivent se soumettre ou partir. Ces conflits sur la frontière, extérieure ou intérieure, ont pris d'autres formes dans d'autres contextes. Aux États-Unis, il fut question au XIXe siècle de renvoyer les Noirs en Afrique, puis la solution adoptée de 1865 à 1965 consista à les chasser de l'espace blanc. Des Latinos détenant la nationalité états-unienne furent expulsés dans de véritables pogroms dans les années 1930, et des enfants nés d'immigrés sans papier sont aujourd'hui menacés. En Europe, les débats ont porté et portent parfois toujours sur les conditions d'acquisition de la nationalité, la légitimité de naturalisation intervenue dans le passé, voire les éventuelles déchéances de nationalité et l'expulsion des immigrés indésirables et de leurs descendants. Les enjeux et les contextes sont chaque fois différents, mais ils illustrent tous comment les conflits sur la frontière peuvent prendre le pas sur les débats autour de la propriété et de la redistribution socio-économique qui suppose que chacun s'accorde au préalable sur l'appartenance à une même communauté.